fidélité.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'Algérie, qui votait cette semaine pour élire son président, n'a pas été le théâtre d'un printemps en 2011. Il faut dire que le pays vit sous une chape de plomb depuis un quart de siècle. Mais aujourd'hui, la jeunesse aspire à une autre vie et ses artistes en témoignent dans un web-documentaire « Fabrique Algeria » dont nous parlons et qui sera relayé par de nombreux médias et institutions tout au long de cette année 2014. Comment sauver la dernière girafe femelle du dernier zoo de Palestine en allant chercher un mâle de l'autre côté du mur en Israël? Ce conte, inspiré de faits réels, est le sujet du film « Girafada » que nous raconte Sébastien Gédor du service culture de RFI. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
En marge de l'élection présidentielle qui s'est tenue ce jeudi en Algérie et qui a été abondamment couverte et commentée dans nos journaux sur RFI, Monte Carlo Doualia et France 24, nous nous sommes interrogés sur ce que les révolutions arabes de 2011 en Tunisie, en Égypte, mais aussi en Syrie, au Yémen ou au Bahreïn, avaient pu apporter dans les sociétés des pays voisins et donc en Algérie. Les mentalités des populations ont-elles changé? Les chapes de plomb politiques ou militaires se sont-elles soulevées? Pour en parler, nous recevons Camille Leprince, chargée de mission du CFD Terre Solidaire, le comité catholique contre la faim et pour le développement. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous proposez un état des lieux de la jeunesse et de la création d'Algérie et d'ailleurs. L'événement s'appelle Hors saison, hors service, avec un point d'interrogation. De quoi s'agit-il exactement?
Alors, ce titre, c'est un petit peu pour faire référence à ce qu'on a appelé le printemps arabe et pour dire, une fois que ce printemps arabe est passé, qu'il s'est plus ou moins concrétisé dans les pays de la région, puisque en Algérie, on peut pas dire qu'il y a eu de révolution, mais ailleurs, oui, il y a bien des processus révolutionnaires qui sont en cours. Donc une fois ce printemps passé, on voit en même temps qu'il y a un phénomène un petit peu d'épuisement ou d'essoufflement dans la région, pour les jeunes notamment, qui étaient pourtant au premier rang des événements révolutionnaires. Donc est-ce qu'une fois ce printemps arabe passé, justement, cette jeunesse se retrouve hors service, ou bien est-ce qu'elle continue à pouvoir transformer sa société? Et cette question, elle est d'autant plus valable en Algérie, où les gens ont l'impression globalement d'avoir déjà vécu une révolution, mais qui, elle, était en 1988, et que pour eux, 2011, c'était pas synonyme de changement. Mais aujourd'hui, ils s'interrogent quand même, puisque donc là, on arrive à une échéance électorale où le changement ne va pas forcément se concrétiser. On se demande justement comment amener ce changement dans cette société particulière qu'est l'Algérie.
Alors précisément, en écho à l'actualité politique algérienne de cette semaine, il y a la sortie de votre web de documentaire « Fabrique Algeria » dont vous êtes l'auteur, donc Camille Leprince. Que raconte-t-il?
Alors, c'est un projet qui est une plateforme multimédia que j'ai commencé en fait à créer au moment où j'étais en Algérie, puisque j'ai passé 2 années là-bas entre 2009 et 2011, donc au moment des changements dans les autres pays autour. Donc, ça raconte un petit peu un portrait de l'Algérie, un puzzle de l'Algérie qui émerge à travers le regard de sa nouvelle génération artistique. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de creuser le statut de l'artiste dans la société, puisque c'est à la fois une personne qui est avant tout témoin, qui vit sa société, mais qui est aussi parfois un peu en marge et qui est parfois aussi un regard un petit peu décalé et qui crée parfois aussi une brèche dans sa société. Donc j'ai pensé que ça pouvait être un regard intéressant pour creuser des contradictions ou des tabous ou des non-dits, en tout cas de cette société algérienne, et en particulier choisir les jeunes artistes, puisque dans la société d'aujourd'hui, il faut savoir que 47% de la population a moins de 30 ans et même 75% de la population algérienne a moins de 25 ans.
Alors, lorsque l'on a 25 ans ou 30 ans en Algérie aujourd'hui, Comment voit-on le monde qui nous entoure? Est-on influencé par les années sombres, les années 90 par exemple?
Oui, je crois que justement tout à l'heure je faisais référence donc à cette révolution de 1988 qui après en fait a ouvert une parenthèse démocratique mais qui a été relativement brève et puis qui finalement a coïncidé avec la montée de l'intégrisme puis avec l'arrivée du terrorisme et s'est transformée en guerre civile. Donc les gens sont extrêmement marqués par ce chaos, sont extrêmement marqués hein, dans les familles, les gens l'ont vécu dans leur chair, ce traumatisme en particulier à Alger et dans le nord du pays, et qui fait que pour beaucoup de gens, le synonyme de révolution peut être le chaos. Et donc il y a une envie de trouver des moyens de changer sa société autrement. C'est ce qu'essayent de faire un certain nombre d'associations, de syndicats, de groupes et de mouvements citoyens aujourd'hui, c'est-à-dire de changer les choses petit à petit, mais avec l'idée d'éviter une nouvelle guerre.
Fabrique Algeria sera bientôt en ligne sur le site du journal algérien francophone Al-Watan et relayé par les médias en France. L'exposition issue du web documentaire sera présentée à partir du mois de septembre à Paris à l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranéennes et du Moyen-Orient. Vous avez également deux rendez-vous dans les prochains jours à Paris, Camille Leprince. Le 25 avril, une soirée ciné-débat au point éphémère et aussi alors le 30 avril, une soirée à Belleville qui, elle, s'élargit à la création d'Alger à Damas.
Oui, alors le but, c'était un petit peu de créer des liens, de dire, voilà, on prend le contexte algérien comme focus, un petit peu accroche d'actualité. Mais aussi, moi, je travaille pas seulement avec l'Algérie, je travaille avec la Tunisie, je travaille avec l'Égypte, donc là où des processus révolutionnaires sont en cours, mais je travaille également avec la Syrie, où on voit que ce début de révolution a finalement malheureusement tourné à une guerre. Et donc, comment aujourd'hui continuer à parler de ces contextes et à montrer qu'il y a des gens qui continuent à se battre avec la culture comme moyen de résistance civile, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qui est, je crois, très fort dans ce bouillonnement créatif hein, issu des révolutions. Et donc, l'idée, donc cette soirée qui se fera le 30 avril à la Bellevilloise, c'est de montrer l'étendue, un petit peu la diversité de ce bouillonnement créatif. Donc, il y aura des expositions, des projections, mais il y aura également des concerts pour là aussi montrer combien la prise de parole est importante. Et donc, on a invité à la fois des rappeurs, par exemple, syro-palestiniens, mais également un rappeur algérien et puis également deux artistes tunisiennes pour montrer justement que croiser les regards sur cette région, c'était important pour sortir des stéréotypes et d'une image un petit peu figée qu'on a parfois du monde arabe.
Merci Camille Leprince, chargée de mission Maghreb-Mashrek au CCFD Terre Solidaire, le Comité catholique contre la faim et pour le développement.
Orion Hebdo sur RFI.
Et parmi les groupes de musique qui seront présents à cette soirée de la Bellevilloise de 30 avril, Refugees of Rap, formé de quatre musiciens nés à Damas en Syrie, même si certains sont d'origine palestinienne, et dont voici un titre emblématique, Marach Narka.
شباب بده حرية وانت مالك مكان معه ما انت ضربت شوه تلت كتير منا فكيف انت تسمح لك تكون معه من انت عالكراسي قاعدين ما انت بدنا نضل ساكتين وضع سيء لازم تغيروه بلشوا غيروه قبل ما تتغيروه هذا نتاج نتج انت شو من حالكم همكم حالكم الشعب مو عبالكم طلعوا سلمية جدوا عكسية شو حالكم لاجئي الراب صوت الشعب جالكم
سلطة ما رح نقلل لبنت الأحرار قرر يحمو هالبلد دفاع عن الأم عن الوالد والبلد غير الله ما بنرك على أحد إيد وحدة حتى نغير الأفكار إيد وحدة حتى نحقق انتصار إيد وحدة إيد وحدة مع الثوار إيد وحدة فينا شو عدا الأبرار
On parle cinéma maintenant avec un film qui sort mercredi prochain sur les écrans français, Girafada, premier long métrage de Rani Masala. Bonjour Sébastien Gédor.
Bonjour Eric.
Journaliste au service culture de RFI. Alors l'action se passe en Palestine et le titre est la contraction de deux mots, girafe et intifada. Expliquez-nous.
Alors tout part d'un fait divers réel, la mort d'une girafe dans le dernier zoo de Palestine, à Qalqilia, en Cisjordanie. C'était en 2002, à la suite d'un bombardement israélien. La femelle survivante des périt, elle ne veut plus manger, il faut lui trouver un compagnon, il faut aller le chercher dans un autre zoo, en Israël, à Tel Aviv, et tout cela en pleine intifada. Dans Girafada, on suit le périple du vétérinaire palestinien, de son fils et d'une journaliste pour aller récupérer cette fameuse girafe israélienne. La toile de fond est politique, évidemment, mais c'est aussi un film sur l'enfance. Et ça, le réalisateur Rani Masala et Laure de Clermont, qui jouent la journaliste, y tenaient beaucoup.
Je dirais que le film, c'est une sorte de conte politique à hauteur d'enfant. Vous savez, l'enfance d'un citoyen de la ville de Qalqilia, si vous voulez, elle est constituée d'un mur qui fait 13 mètres de haut. Il peut pas voir la mer Méditerranée qui est à 13 km de chez lui. Le zoo de Qalqilia, c'est le seul endroit où un enfant a encore le droit d'être un enfant. Et c'était très important pour moi de prendre le point de vue d'un enfant palestinien pour traiter de ce conflit.
Laure de Clermont, pour vous aussi, c'était important que ce film, il ait ce double aspect, un conte également politique.
Oui, je trouve que c'est une belle manière de parler de cette histoire, de ce conflit, et une façon assez unique d'ailleurs, de positionner un enfant et une girafe, et donc de vivre cette histoire à travers eux, et ce qui donne aussi une valeur universelle, et aussi une façon très accessible de percevoir l'histoire de ce pays et ce conflit. D'habitude, les films sur ce conflit sont beaucoup plus réalistes, beaucoup plus durs. Là, on est vraiment sur le charme d'un conte.
What's the plan, Habibi?
The only solution is that you send me a male giraffe and you send it now.
An endangered species to the West Bank. You're losing it, you see.
Alors, contrairement à beaucoup d'autres films sur la Palestine, Girafada n'a pas été tourné à l'étranger.
Effectivement, là, il n'y a pas eu de délocalisation à Malte ou en Israël avec des villes reconstituées. Le tournage, qui a duré 6 semaines seulement, s'est déroulé à Naplouse, en Cisjordanie, et il a laissé à Rani Masala et Laure de Clermont des souvenirs impérissables. Écoutez.
C'est vraiment une expérience formidable de poser sa caméra à Naplouse. C'est la plus grande ville de Palestine, c'est une ville millénaire. On a été très bien accueillis par la population locale qui a tout fait pour faire marcher le film, qui a participé au film. Il n'y a pas eu de problème à proprement parler politique, parce que déjà on avait une équipe mixte, donc il y avait des Français, des Allemands, des Italiens, des Palestiniens, des Israéliens, des Canadiens, des Américains et même un Congolais.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est un matin on est allé sur une colline qui surplombait en fait Naplouse. Il était 6h du matin et il y en a eu des lumières, mais bibliques, enfin, des lumières saintes. Je comprends pourquoi il y a des milliers d'années, des gens sont venus en disant moi, c'est une terre sainte, parce que c'était exceptionnel. On s'est tous arrêtés, on a regardé ce lever de soleil avec ces lumières qui perçaient le ciel, c'était absolument magique.
Girafada, un film lumineux, même s'il ne ménage pas forcément de happy end. On vous laisse découvrir.
Merci Sébastien Gédor. Girafada, un film de Rani Masala sur les écrans français le 23 avril.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors Alexandre, l'élection présidentielle en Algérie fait la une des journaux panarabes, mais la couverture est généralement factuelle et les commentaires sont rares.
Oui, et la photo de Bouteflika sur un fauteuil roulant est à la une de presque tous les journaux. Alors, des journaux qui effectivement se contentent de dire que le président en exercice est le favori. Toutefois, certains commentateurs ne peuvent pas s'empêcher de remarquer que les images d'un Bouteflika à la main tremblante sur son fauteuil roulant résument la situation de l'Algérie. Une Algérie qui, selon Abdelali Hameyeddine dans Al-Quds al-Arabi, sera gouvernée par procuration, le vrai pouvoir étant entre les mains du Premier ministre Abdelmalek Sillal.
Alors, toujours à la une de la presse israélienne, Michel Paul, le processus de paix, ou en tout cas ce qu'il en reste.
Le fossé entre les parties à la négociation reste très profond, affirme le quotidien Israël Hayom, proche du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et le journal cite un haut responsable palestinien qui propose de couper tout contact avec Israël. L'éditorialiste du Haaretz, pour sa part, espère que le président palestinien ne se décourage pas, ne jette pas les clés de la négociation. Les revendications de Mahmoud Abbas sont logiques, écrit l'auteur de l'article, elle teste le sérieux du Premier ministre israélien. Yedioth Ahronot parle, lui, du piège de la négociation. Il faut payer un prix pour la continuer et un prix encore plus fort en cas d'explosion des contacts entre Israéliens et Palestiniens. Mariv révèle quelles sont les conditions palestiniennes à la poursuite du processus diplomatique, le gel de la construction dans les colonies de peuplement et aussi le tracé des frontières du futur État palestinien.
Et c'est dans ce contexte, Michel, que l'on apprend que les Israéliens pourraient se rendre bientôt aux États-Unis sans visa.
Oui, c'est la politique du bâton et de la carotte. Les Américains ont laissé entendre à mi-mot que l'espion israélien Jonathan Pollard pourrait être remis en liberté dans le cadre d'un accord sur la quatrième vague de libération de prisonniers palestiniens. Et voici, Eric, une nouvelle carotte qui jaillit du chapeau de John Kerry, cette fois sous la forme de visa automatique d'entrée aux États-Unis. Jusqu'à présent, les Israéliens ne bénéficient pas de ce privilège et doivent faire la queue devant les consulats américains pour se rendre aux États-Unis. Les ressortissants américains, eux, sont dispensés de visa d'entrée en Israël.
Oui, tous les moyens sont bons pour appâter le chaland. Beaucoup de commentaires dans les journaux arabes, Alexandre Bouchanti, sur l'élection présidentielle à venir en Égypte. La presse indique que Hamdine Sabahi a finalement réussi à obtenir les 25 000 parrainages nécessaires à sa candidature face à l'ex-maréchal Sissi.
Oui, c'est presque un ouf de soulagement que poussent la plupart des commentateurs des journaux égyptiens. Si Hamdine Sabahi n'avait pas réussi à rassembler les 25 000 procurations requises, il n'aurait tout simplement pas eu une course à la présidence et l'on aurait pu annuler l'élection tout simplement, à moins de la transformer en plébiscite, comme du temps du président Nasser qui obtenait régulièrement 99,9%.
Ce qui aurait fait désordre. Et puis Alexandre, les journaux arabes se font l'écho des ennuis de la confrérie des frères musulmans en dehors de l'Égypte.
Dernier pays en date à exprimer sa méfiance à l'égard de la confrérie, c'est le Canada, dont le ministre des Affaires étrangères était en visite en Égypte. Les journaux rappellent que le premier ministre britannique David Cameron a récemment ordonné l'ouverture d'une enquête sur la confrérie, tandis que le Qatar vient de signer un accord avec l'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe qui pourrait limiter le soutien accordé par Doha à la confrérie. Rappelons que la confrérie est considérée comme un mouvement terroriste en Égypte, en Arabie Saoudite et aux Émirats.
Alors un journaliste arabe israélien arrêté pour intelligence avec l'ennemi, Michel Paul.
Et c'est le titre principal du Haaretz dans son édition de ce week-end. Un journaliste israélien arrêté et détenu au secret après s'être rendu au Liban. Après 5 jours d'incarcération, Majad Kial a pu enfin rencontrer son avocat et a été placé en résidence surveillée. Le quotidien fait remarquer que des journalistes israéliens de confession juive qui se sont rendus dans des pays officiellement en guerre avec Israël n'ont pas été poursuivis. Au contraire même, ils ont été invités à donner des conférences devant des militaires.
Notons encore, Michel, le suicide du chef de la pègre israélienne. Suicide, vraiment ?
Charlie Aboudboul s'est tiré une balle dans la tête. Le chef de la famille n'a pas supporté la disparition de plusieurs de ses proches dans les règlements de compte et aussi l'incarcération d'autres. La presse israélienne se penche sur les répercussions de cette disparition et du vide qu'elle crée, tout en faisant 2 remarques et 1 question. D'abord, Aboudboul s'est-il vraiment suicidé ? Et aussi, que les truands souffrent, comme les autres, de dépression.
Alexandre, l'interdiction d'un film égyptien par le Premier ministre en personne occupe les pages culture de la presse arabe et suscite de nombreux éditoriaux.
Oui, il s'agit du film « Halaout Rouh » avec la plantureuse Haifa Warbi. Et c'est à des moments pareils que l'on regrette qu'il n'y ait pas d'image à la radio. Et donc un film qui avait battu tous les records du box-office égyptien dès le premier jour de sa sortie, il y a près de 2 semaines. Le film, en fait, est une copie égyptianisée du film italien de l'an 2000, Malena, avec Monica Bellucci. La Sicile des années 40 devient un quartier populaire du Caire d'aujourd'hui, un quartier qui est enflammé par le sex-appeal de celle qui devient veuve et une atteinte selon la présidente du Conseil supérieur de la femme, une atteinte à l'image de la femme et de l'enfance. Une atteinte aussi à la liberté d'expression selon les artistes et les intellectuels qui rappellent que même les frères musulmans n'avaient pas interdit de film quand ils étaient au pouvoir.
Oui, c'est dire. On termine avec votre photo du jour, Michel.
Les Pâques chrétiennes et Pessah, la Pâque juive, coïncident. Cérémonies religieuses, mais aussi, selon la tradition, balade dans la nature. De nombreuses photos, mais Eric, j'ai sélectionné celle du président Shimon Peres, qui tient une brebis dans ses bras.
Voilà, c'est mignon. Merci messieurs, merci à François Porcheron qui réalise cette émission, émission que vous pouvez podcaster ou réécouter sur le site www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.